Patrick Chastenet, bonsoir.
Bonsoir.
Nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir à l'occasion de la parution du volume aux éditions Bouquin en coédition avec les éditions Mola, donc de ce fort volume consacré qui rassemble 4 textes Jacques Ellul, dont vous avez à la fois établi, présenté et annoté l'édition. Donc c'est important parce qu'effectivement, ça va permettre de disposer en un seul volume de 4 textes, qui sont 4 textes vraiment très importants de l'œuvre de Jacques Ellul, et qui en représentent, on va dire, l'ensemble des aspects, que soit le versant sociologique au travers de la question de la pensée de la technique ou la propagande, le versant, on va dire, plus théologique avec l'espérance oubliée, et puis évidemment aussi l'expérience révolutionnaire, on en reparlera, parce que c'est un trait commun de toute l'œuvre de Jacques Ellul au travers de christianisme et anarchie. Et c'est évidemment pour nous un grand plaisir de vous recevoir. Depuis plus de 30 ans maintenant, vous consacrez une partie de votre œuvre, une grande partie de votre œuvre et de votre énergie, justement à la diffusion, à la présentation de l'œuvre de Jacques Ellul. Vous aviez commis, il y a une petite dizaine d'années, une introduction à Jacques Ellul dans la collection Repère la découverte, suivie peu de temps après de l'inévitable Bernard Charbonneau, puisque les deux sont relativement inséparables l'un de l'autre. On les évoquera probablement aussi dans cette œuvre. Donc justement, je me permets de renvoyer à la présentation que vous aviez faite de ce texte chez nous, avec l'idée que peut-être aujourd'hui, on allait se consacrer plus précisément aux différents livres qui composent ce volume, pour essayer de comprendre plus précisément quels sont les différents aspects de l'œuvre de Jacques Ellul et pourquoi aujourd'hui, elle a une résonance extrêmement importante. Alors, peut-être simplement pour commencer, qu'est-ce qui a présidé au choix de ces 4 livres, parce que l'œuvre de Jacques Ellul, qui s'étale sur presque une quarantaine ou une cinquantaine d'années en termes d'écriture, est extrêmement abondante en termes de titres.
Oui, ça a été la question fondamentale, c'était le choix. Il y a 70 litres, hein, 70 livres, pardon, 70 titres, 70 litres, quel lapsus, ça commence bien, et 70 titres, et il fallait pouvoir les rassembler en un volume, et puis il y avait un nombre limité, j'avais droit, en fait, j'étais parti sur l'idée de 2 800 000 caractères. En réalité, je pense qu'il y en a plutôt 3,2, quelque chose comme ça. Et, bon, c'est avec les notes, avec la biblio, les choses en plus. Mais l'idée, si vous voulez, c'était... C'est vrai qu'il y avait beaucoup de contraintes. Et en même temps, c'était peut-être aussi de tenir compte des choix d'Ellul même. C'est-à-dire qu'Ellul, moi, je lui ai posé la question. Et vraiment, je l'ai interviewé pendant près de 20 ans. Et il y a des moments d'entretien où, là, vraiment, je les visualise encore. Bon. Et là, je lui avais demandé, parmi vos livres, et à l'époque, je lui ai demandé, je pense qu'il y en avait une bonne cinquantaine déjà. Et je lui dis, quels sont vos préférés? Quel est votre préféré, tout simplement? Quel est votre préféré? Et puis il m'a répondu, la technique. Alors il fallait comprendre la technique ou l'enjeu du siècle. Et je lui ai dit aussi, même question sur le plan théologique, quel est votre, pour vous, le livre le plus important? Et là aussi, je m'en rappelle comme si c'était hier, il m'a dit, l'espérance. Donc il donnait à chaque fois un titre qui était proche, mais ce n'est pas le bon, ce n'est pas l'espérance oubliée. L'espérance, c'est celui dans lequel j'ai mis tout mon cœur. Bon. Je me suis souvenu de ça. Mais dans les deux cas, je me suis souvenu de ça. Alors, il y a la trilogie. Hein. La trilogie, c'est la technique ou l'enjeu du siècle, qui est publiée en 1954, mais qu'il avait rédigé, qu'il avait achevé entre 50 et 51. Et puis, le livre est resté sous le coude d'un lecteur au sein d'une maison d'édition. Enfin, bref, il y a eu une série de refontes, ça a tardé. C'est effectivement le pivot. Mais, un, il est très, très volumineux. Il aurait fait que... ça aurait été un volume bouquin, 2 livres. Je crois que ça n'avait pas beaucoup de sens. Et puis, j'ai trouvé que le bluff technologique, c'est aussi un pavé qui contient beaucoup d'éléments, qui est très intéressant, notamment sur l'ambivalence du progrès technique. Mais... qui contient d'abord certaines redites et qui contient des aspects inutilement polémiques et pamphlétaires même, et même parfois un peu datés. Donc en procédant par élimination, avec un avantage supplémentaire, même si il n'en fait pas le sujet central, Il parle de l'accélération dans le système technicien. Donc, effectivement, la technique, le progrès technique comme un processus sans fin, ni avec ni cause, ni nécessité, sinon sa propre progression. Et puis, il parle quand même de l'intelligence artificielle. Alors, ce qui m'avait beaucoup plu dans ces deux pages et demie, alors que le reproche récurrent quand on parle d'Ellul, y compris d'ailleurs venant de ces, disons, des rares contemporains qui lui trouvaient des qualités, je pense à Ivan Illich, c'était de stigmatiser son pessimisme foncier. Et là, justement, c'est extraordinaire de relire ça. Il fait preuve, justement, c'est pas de la naïveté, mais c'est au contraire d'un grand optimisme et à l'égard de des risques. Il dit, par exemple, là, il a été démenti par les faits, mais ça, on a sans doute l'occasion d'y revenir, que, par exemple, qu'aucun ordinateur sera à même de battre un humain aux échecs. Bon, ça a été fait, mais je dirais qu'à chaque fois alors, c'est pas ça, d'ailleurs, le sujet d'Ellul. C'est pour ça qu'il ne faut pas en faire un prophète. C'est pas Madame Irma. Là où il est pertinent, c'est que il faut quand même concevoir... je m'écarte de votre question.
On peut y rester.
Parce que, si vous voulez, sur ce plan-là, alors, je termine sur son optimisme. Même chose aussi sur les machines à traduction. Bon, au moment... Il est déjà sur le sujet. Et ce livre est publié en 1977. Il dit non, finalement, il faudra toujours un humain pour restituer. Et déjà, Dieu sait que, bon, avec l'axiome traduction-trahison, bon, déjà, toute la difficulté d'une traduction donc par une machine. Or, ben, on le sait que maintenant, alors pour le meilleur et pour le pire, et il y a 90% des traducteurs qui sont justement menacés, où ils font un autre travail qu'une traduction digne de ce nom. Bon. Mais ce qui est intéressant, justement, et puis je vais venir sur les deux autres livres, ce qui est intéressant déjà dans le système technicien, c'est que, bon, déjà, il y a une approche plus conceptuelle, sans que ce soit avec Ellul, on est quand même toujours dans quelque chose de lisible et d'accessible, ce qui permet que, justement, c'est-à-dire que il peut se tromper sur un point de détail. Là, je l'ai dit pour les échecs bien volontiers. Faut surtout pas en faire un être infaillible. Hein. Mais il ne se trompe pas sur les tendances. Et moi, ce qui me fascine, c'est que quand Ellul, justement, commence à penser la technique, faut pas oublier qu'à Bordeaux même, puisque, comme nous le savons tous, il est bordelais, bon, eh bien, à Bordeaux, on peut croire encore place de la Poste, voir des chevaux. Il y a encore des chevaux dans la ville, quoi. Et on peut voir des poules. Bon. Or, lui, il a déjà l'idée à ce moment-là que l'homme, parce qu'il raisonne, il parle de l'homme, l'humain, comment il parle de la nature, eh bien, l'homme va vivre dans un milieu qui ne sera plus le milieu naturel, mais qui va devenir d'ailleurs un second milieu naturel, un milieu technicisé, et un milieu technicisé de part en part. Et ça, je crois que dans chacune de nos vies, à chaque instant, à chaque instant, les choses les plus triviales, prendre un rendez-vous médical, un rendez-vous pour un examen, une bioscopie, que sais-je encore, hein, n'importe quel, on le sent. Comment faire ? On en oublie même l'avant. C'est-à-dire qu'on est comme l'air que l'on respire. On est tellement imprégné de cette technique. Et ça, je pense que le lecteur... J'ai conçu ce livre, dont je n'ai fait que les articulations, essayer de restituer le mouvement, que justement comme une introduction, c'est-à-dire qu'avec ces 70 livres, bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour restituer le mouvement ? Donc le système technicien, il avait sa place. Quant à l'espérance oubliée, ben justement, j'ai voulu non pas me faire plaisir, parce que c'était pas du tout mon choix. Moi, j'aurais bien aimé, j'aurais choisi, par exemple, celui dont il dit finalement qu'il clôture une œuvre commencée par Présence au monde moderne, qu'il avait publié en 1948. Autrement dit, tous les livres qui sont publiés après, et il y en aura peut-être une vingtaine après, Bon, on considère que c'est hors de son œuvre quand même, si on le prend. Et c'est là sa méditation sur l'Ecclésiaste, la Coëlette. C'est vraiment un très, très, très beau texte dont on ne connaît que vanité, tout est vanité. Et poursuite du vent. Mais il en fait une lecture. Là, on retrouve d'ailleurs sa pensée éminemment dialectique. Et d'ailleurs, on retrouve sa lecture de la Bible, qui est toujours une lecture dialectique. C'est central chez lui. Donc, l'espérance oubliée, plutôt que ou la subversion du christianisme qui a les faveurs du public. Là, mais j'ai voulu là. Donc voilà ce choix. Et puis pour propagande, hein, là, je crois que c'est le livre j'ai fait aussi. J'ai pas fait tout seul. J'ai quand même sondé un peu l'entourage, la famille. J'ai sondé un proche ami qui suit Ellul depuis toujours, qui m'a même précédé dans l'intimité d'Ellul et qui est devenu pasteur protestant. Et là, comme Montaigne et la Boétie, lui, il a d'abord connu il n'est pas bordelais, et c'est un protestant converti. Il a d'abord connu l'auteur avant de rencontrer Ellul, et c'était par l'espérance oubliée. Donc ce choix était là. Anarchie-christianisme m'a semblé fondamental parce que ce livre a eu la malchance de sortir la même année 1988 que le bluff technologique qui a retenu l'attention des médias. Et il l'a publié dans une petite maison d'édition qui existe toujours, hein, l'Atelier de création libertaire à Lyon. Et d'ailleurs, ça aussi, ça a été pour moi un moment enrichissant et qui montre. Là, je n'ai pas été déçu parce que j'ai appris dans les archives de cette maison d'édition. J'ai vu comment, en réalité, ce livre, l'initiative vient. C'est-à-dire qu'il est élu. Je savais qu'il était passionné par l'Espagne libertaire, mais pas à ce point-là. Je savais qu'il était aussi passionné par. Parce que j'ai accédé à une partie de sa bibliothèque. Et je savais qu'il était passionné par exemple, c'est comme ça que j'ai vu comment il lisait les livres de Murray Bookchin avec des annotations. Mais là, il était entré en communication par lettre, donc, avec un professeur qui se décrivait, lui, comme étant d'origine espagnole, comme un modeste professeur qui avait écrit un texte sur l'autogestion, sur les libertaires, l'autogestion pendant la République, la guerre d'Espagne et après. Et Ellul l'avait entretenu après une correspondance avec lui, et c'est ce professeur qui lui a suggéré de mettre sur le papier le lien entre cette incompatibilité fondamentale qu'il y aurait entre les deux. C'est pas du tout la piste que j'avais en tête. J'avais une autre piste qui s'était donc avérée fausse. Et alors, ce qui est très intéressant aussi dans les archives que j'ai pu trouver, c'est son rapport à la maison d'édition. Il dit, bien entendu, je ne veux aucun... J'ai les lettres manuscrites. Je ne demande aucun droit d'auteur. C'est pour vous. Et après, il est question qu'une maison d'édition américaine... il reçoit une demande et tout. Il dit, bien entendu, vous acceptez et vous gardez les droits d'auteur. Donc ça aussi, c'est intéressant de... Non pas que je n'ai pas douté, mais c'est bien aussi de le voir écrit, de voir ce... Et puis pour la propagande, comme je pense que là, c'est véritablement quelque chose qui s'impose dans l'œuvre d'Ellul. C'est quand même un livre très important... qui fait encore autorité. Je me rappelle que c'était encore ici, sauf que j'étais à votre place. Il y avait David Collomb, donc à la mienne, qui a repris d'ailleurs le titre Propagande. Ellul, c'est Propagande au pluriel, et qui s'inspire et qui ne s'en cache pas, et qui l'a donc actualisé, qui a mené un travail de réflexion sur la propagande. Et là, Ellul a mis le doigt sur quelque chose de fondamental qui est donc, mais on aura l'occasion d'en parler, je pense, la propagande sociologique qui est moins visible que la propagande politique. Et puis, parmi les fonctions de cette propagande, eh bien, on se rend compte que ce qu'il écrit sur la propagande, d'ailleurs dans nos régimes démocratiques, est tout à fait pertinent. aujourd'hui encore, et on peut tout à fait l'appliquer dans le cadre de la post-vérité, des fake news, et même des théories conspirationnistes. Pourquoi ça marche? Pourquoi on adhère? Pourquoi qui y adhère et pourquoi, etc. Ça, c'est extrêmement, là aussi, clairvoyant. Je sais que c'est devenu un lieu commun de répéter qu'il avait raison avant les autres, mais je dirais que ça reste vrai. Ça reste vrai, une fois encore, dans l'ensemble, même si sur tel ou tel aspect, il peut en effet se tromper.
Justement, essayons de voir dans le détail des textes, qu'est-ce qui fait que sa pensée a cette force, cette pertinence. Et en commençant justement par le système technicien, titre dans lequel finalement ce qui importe, c'est l'idée de système. C'est-à-dire que la grande idée d'Ellul, c'est de dire en fait, il faut sortir de ce piège où on nous fait croire que la technique est l'instrument dont la valeur dépend de l'usage qu'on en fait. C'est un système propre, et en fait, c'est à l'élucidation de ce système qu'il consacre son travail.
Oui, je crois que là aussi, c'est ce type de raisonnement. On peut aussi l'appliquer à l'intelligence artificielle. Il y a un homme politique là dont je ne citerai pas le nom, qui est toujours d'actualité. Il dit finalement l'intelligence artificielle, bon, il n'y a pas de problème. Il ne voit pas en plus de contradiction avec ce qu'il peut dire par ailleurs sur l'écologie ou même sur la nécessité de reprise, de contrôle, même de lutte contre le capitalisme. C'est très bien à partir du moment, justement, où on l'a soustrait aux géants de la tech, aux seigneurs de la tech, au techno-césarisme, peu importe, ou pourquoi pas d'ailleurs un mot que pour ma part je n'emploie pas, enfin, jusqu'à plus en plein formé, qui est le techno-fascisme. Je pense que ce concept, qui est beaucoup employé d'ailleurs chez un nombre de critiques, de jeunes critiques même de la technique, peut-être réserver ce mot de fascisme, sinon le vide de son sens. Mais quoi qu'il en soit, cette idée, elle n'est pas pertinente, ou du moins il faudrait la tester jusqu'au bout. Dire que... oui, c'est la métaphore du couteau, hein, qui est bien pratique. Un couteau, bien, pas de problème. Si c'est pour découper une part de tarte, tout va très bien. Donc, vous voyez, et puis si c'est pour planter dans le dos du voisin, ça va moins bien. Donc, on va dire, vous voyez, le couteau est neutre. Oui et non, sauf qu'une fois encore, ça s'est négligé, justement, totalement le caractère systémique de la technique. Si vous voulez, la voiture, vous n'avez pas une voiture toute seule. On peut très bien dire qu'une voiture toute seule, mais c'est tout à fait extraordinaire pour celui qui va l'utiliser. Voyons, c'est un instrument de liberté fantastique, qui plus est quand on est qu'on vit dans une religion. Le deuxième lapsus, et après le litre, dans une région reculée de tout. Eh bien, une voiture, c'est un instrument merveilleux. Sauf que 1 million, 10 millions, 100 millions, et qu'est-ce que ça signifie, justement, dans au plan global, une société qui est construite pour la voiture. C'est qu'à un moment donné, c'est plus... en fait, c'est pas la société qui se sert de l'automobile. On peut dire qu'une grande partie des humains, justement, même dans la... Alors, moins maintenant, parce que moins maintenant, mais ça a été pendant très longtemps, c'est quelque chose qui a même été calculé par Illich ou Dupuis. On pouvait très bien dire que, par exemple, un ouvrier, puisque quand on regardait ses revenus, son temps de travail, son budget, il travaillait pour payer sa voiture. Bon, on voit ce niveau d'aberration. Mais pour revenir à cette question-là, justement, de l'outil, non, c'est négliger justement ce caractère systémique. Et puis, dire que la technique est neutre, écoutez, il y a bien une... Alors après, on va distinguer l'atome civil en matière d'atome. Une bombe atomique, dire, est-ce qu'elle peut... Alors, poussons le raisonnement. Est-ce qu'on peut avoir un bon usage de la bombe atomique? Raisonner comme ça, d'ailleurs, c'est le bon et le mauvais. Dans une logique technicienne, ça n'a pas de sens, parce que c'est plaquer des catégories morales précisément là où il n'y en a pas. C'est-à-dire que, une fois encore, pour Ellul, la technique, ce n'est pas la machine. C'est la recherche du moyen absolument le plus efficace, indépendamment de toute autre considération. Une fois qu'on sait ça, on peut revenir justement à cette histoire de bombe atomique. Le bon usage de la bombe atomique, c'est de bien s'en servir. Alors, est-ce qu'on va dire que c'est neutre ? Non, c'est pas neutre. Construire une société sur l'atome, c'est pas neutre. Alors, on peut après. C'est un autre de débat de dire que la dissuasion nucléaire, bien évidemment. Mais ça, c'est un présupposé que on doit pour avoir la paix. Il faut. Donc, il n'y a pas de neutralité. La neutralité de la technique, en fait, c'est notre neutralité à son égard. La technique n'est pas neutre. Elle n'est jamais neutre. Et indépendant même, de ses propriétaires. Ce n'est pas parce que, si vous voulez, pour l'instant, on peut se rassurer en disant que les Sam Altman, les Peter Thiel, et d'autres, Bezos, l'ensemble de ces gens de la tech sont des mauvaises personnes. D'ailleurs, il faudrait rentrer. Mais est-ce que c'est vraiment là le sujet ? Ça voudrait dire que... Est-ce qu'il n'y a pas une réflexion à mener, par exemple, sur justement ces outils techniques en tant que tels ? Est-ce que précisément leur fonction, et là on est dans le cadre d'une accélération, n'est pas... Et je dirais que ce qui est très inquiétant d'ailleurs, quand on écoute d'ailleurs ceux qui nous vendent cette intelligence artificielle, puisque en réalité... Une grande partie de l'analyse du discours des Lulles sur la technique, en général, en gardant même terme à terme, on peut l'appliquer à l'intelligence artificielle. Ce que je trouve très inquiétant, moi, c'est que ceux qui nous la vendent, en réalité, il faut prendre dans les vidéos, leurs entretiens. Je pense notamment à Sam Altman. J'avais écouté un certain nombre d'entretiens. Sam Altman, donc, est le PDG d'OpenAI. Qui a réussi un coup extraordinaire, il n'y a pas d'autre mot, en novembre 2022. En deux mois, il y avait 200 millions d'utilisateurs de ChatGPT. Là, aujourd'hui, il y a 6 milliards d'internautes. Sur 6 milliards d'internautes, il y a 1 milliard qui utilisent l'intelligence artificielle. Sur ce milliard, il y a la moitié qui utilisent les services de Sam Altman. Bon, donc c'est quand même intéressant de s'intéresser à ce personnage. Bon, quand on l'écoute, c'est on ne peut plus effrayant. Il a l'air absolument pas. Il n'est pas. C'est pas un sale type. On pourrait, citer d'autres qui font des saluts nazis, qui ont l'air bon très. Lui, non, c'est pas du tout ça. Il fait tout plutôt un peu à la californienne. Bon, le type cool. Oui, sauf que. Et d'ailleurs, dans l'interview auquel je fais référence, il est interviewé. C'est extrêmement inquiétant. C'est-à-dire qu'on voit très bien qu'il ne sait absolument pas où cette intelligence artificielle va nous mener. Il n'a pas tellement d'idées sur l'avenir. Quand on lui parle de la consommation d'énergie de l'intelligence artificielle, il peut éventuellement vous répondre que pour faire fabriquer un humain, pour arriver à le rendre intelligent à l'âge de 20 ans, on consomme aussi beaucoup d'énergie. Il vous décrit finalement l'humain comme un être, finalement une machine qui n'est pas tellement au point encore. Et puis, quand on lui parle de la consommation d'énergie, on lui parle des data centers. On lui dit, finalement, le globe, si on vous écoute bien, dans pas longtemps, la Terre va être recouverte de gigantesques... Alors, il en fait construire, qui sont effectivement énormes, alors qu'on voit pendant l'entretien des espèces de monstres de mécanique. Et il dit oui. Et il dit oui, mais peut-être qu'un jour, on pourra les envoyer sur une exoplanète. Et après, il dit oui, peut-être qu'on pourra aussi les mettre sur orbite. Mais bon, tout ça, il n'est pas très sûr. Mais avant de les mettre sur orbite, c'est tenté d'ailleurs que ça marche, le fait que notre Terre, ou ce qui reste de la nature, parce qu'il en reste encore fort heureusement pas mal, mais pourrait être vraiment recouvert d'immenses data centers.
Ce que vous dites, ce qui est important, sur quand vous dites finalement, il ne sait lui-même pas très bien où ça va, c'est le cœur du système de ce que dit Ellul, c'est-à-dire c'est le retournement du moyen et des fins.
C'est ça.
C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas sur un horizon de finalité, on a transformé le moyen en fin.
Exactement. C'est-à-dire que pour Ellul, la formule qu'il emploie dans le système technicien, c'est de dire l'homme croit se servir de la technique alors que c'est lui qui la sert. Bon, là, on est vraiment dans cette démarche. C'est-à-dire que Je veux dire que ceux qui nous la vendent, ben alors là, vraiment, il faut les écouter pour vraiment se dire qu'ils ne savent pas du tout où ils vont et où ils nous emmènent avec eux. Parce que c'est effrayant. Hein. Là, il avait un vrai candide qu'il interviewait, mais au sens propre, hein, c'était, je ne dirais pas comme vous, puisqu'il avait un côté, humoriste, et il se présentait. Sauf que c'était vertigineux, les réponses. Parce que... Et moi, la deuxième chose qui m'inquiète, c'est que ceux qui sont vraiment compétents... Moi, j'ai eu la... Je ne sais pas si c'était la chance, parce que je me disais, mais qu'est-ce que je fais là? Même la veille, j'avais été invité, mais j'étais le second choix, puisque ils avaient voulu... c'était à l'Académie des... à Paris, à l'Académie des sciences, et c'était le... Ils voulaient inviter Bernard Stiegler, et ils n'ont pas pu, parce qu'il est décédé un peu de temps avant, mais c'était justement sur... l'intelligence artificielle, mythe, robotique. Bon. Et il y avait Yann Lequin. Yann Lequin est un chercheur français, un des plus grands chercheurs, ingénieur, informaticien, et qui travaille pour Google, hein, tout français qu'il est. D'ailleurs, il était en visio, là, et lui, il était aux États-Unis. Donc. Et là, il vient. Alors, là, c'est vrai, il est devenu un repenti. Je pense aussi à Yoshia Bengio. Qui est vraiment qui anime, qui est un chercheur canadien qui anime le MILA, qui est vraiment le plus grand centre de recherche sur l'intelligence artificielle. Vraiment, tire selon les clichés attendus qu'il tire la sonnette d'alarme, c'est peu de le dire. Bon, et je crois que les trois plus grands, parce qu'il y a le troisième, j'ai oublié son nom. D'ailleurs, je dois l'avoir quelque part là, je l'avais noté parce que je retiens pas, mais peu importe. Là, je sais qu'avec eux, et ce qui est très intéressant, c'est que. Les trois disent que leurs collègues, alors ils donnent des pourcentages effarants, sont, alors ça va de un peu, beaucoup, très très inquiets, avec une majorité de vraiment de très inquiets, sur l'idée que, pour le coup, ça échappe complètement à ça. On est vraiment là dans toutes les métaphores habituelles hein, de la créature qui échappe à son créateur, et avec cette espèce de course aussi sur... ce qu'on appelle la singularité, ce moment... Bon, je me vois en train de partir, on ne va pas parler que de l'intelligence artificielle, mais ça, c'est de ma faute. La singularité, c'est-à-dire le moment où je dirais l'intelligence artificielle générative sera légale, voire supérieure à l'homme, et pourra avoir donc... Et pourquoi pas une conscience propre des intentions et quelles sont-elles et qui pourra être là pour exercer un contrôle. En tout cas, moi, c'est peut-être pour ça que j'ai voulu en parler, parce que j'y vois, alors qu'une fois encore, Ellul, quand il pense la technique, d'abord, il commence les années 30, hein, d'ailleurs, ses premières réflexions, et son livre majeur, c'est les années 50, et déjà, et puis celui dont nous parlons, c'est les années 70. Bon, franchement... les caractères, les huit caractères qu'il donne, dont le dernier c'est l'autonomie, c'est le caractère le plus discuté au sein de la philosophie de la technique. Hein. Lui, d'ailleurs, ne se pense pas comme un philosophe. Ils sont tous pertinents. Le premier étant l'artificialité. Bon, voilà, c'est marqué dessus, comme le pense à lui. Bien sûr, la technique, elle est artificielle. Hein, elle s'oppose à la nature. Elle est bon. Ben oui. Et l'autonomie, bon, là, l'autonomie, c'est la phase, je dirais, évidemment, ce sont des machines apprenantes. C'est-à-dire que c'est le fond.
Non seulement c'est l'autonomie, et comme il le dit, c'est aussi l'auto-accroissement.
Oui.
Avec ce que vous avez évoqué, ce qui est important, c'est que l'un des points intéressants du système technicien, c'est la question de l'accélération.
Oui, c'est ça. C'est l'auto-accroissement, et en effet, puisque. Avec ce type de technique et avec surtout ce type de société. Parce qu'on entre dans une société technicienne, justement, à un moment donné, d'ailleurs, où il y a ce système technicien hein, qui fait que, eh bien, l'invariant et le référentiel commun étant la recherche de l'efficacité, eh bien, justement, se produit un phénomène comme ça d'auto-entraînement, d'auto-accroissement, parce qu'on n'est plus nécessairement dans ce qui a pu exister très longtemps avec le rôle de l'inventeur. C'est-à-dire qu'une certaine façon, chaque petite découverte aussi en entraîne une autre. Et il y a cette... Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas pour autant des... Il y a encore, bien sûr, des découvreurs. Mais... et c'est vrai que là, on a franchi un cap. Mais c'est le produit, je dirais, d'une multitude d'actions individuelles. Et sur l'auto-accroissement, on le voit dans les quantités de domaines, mais dans les domaines, tout c'est vrai, qui peuvent être tout à fait triviaux et tout à fait quotidiens. Si vous pensez à tous les éléments qui sont liés à la sécurité, mais on n'en finit pas, si vous voulez, sur les... Et l'auto-accroissement, c'est que pour une parade, c'est-à-dire pour... Il faut chaque activité, ben, par exemple, je reviens toujours à ça, c'est puisque maintenant, est-ce qu'il est possible d'avoir, de se passer d'un compte bancaire et comment, dans la même journée, il faudrait que chacun se pose la question. Moi, je me suis encore posé aujourd'hui. Il y a des journées d'ailleurs chargées par rapport à cela. Le nombre de codes de sécurité qu'on est amené à remplir dans une journée. Bon, pour peu que vous ayez un petit pépin de santé, bon, c'était mon cas aujourd'hui, ça n'arrête pas. Vous ayez un rendez-vous. Hein. Donc c'est et là c'est bien toujours des dispositifs techniques. Bon, le summum, c'est que bon, hein, évidemment, faut se dire, faut vite retrouver peut-être un chéquier et encore, mais avoir une pièce. C'est quand vous avez, si vous voulez, vous avez perdu ou cassé votre portable, si vous avez un téléphone portable, mais je pense que là aussi, on est nombreux à en avoir un. Eh bien, il va falloir justement pouvoir le valider. Mais là, c'est faut le valider. Mais sauf que vous allez acheter un nouveau. Mais pour acheter le nouveau, votre banque vous demande un code de validation. Mais le code de validation, ben, vous ne l'avez pas parce que vous n'accédez pas. Vous avez perdu votre... On vous a volé votre portable. Mais c'est des choses tout à fait triviales. Mais ça participe de cette... de cet auto-accroissement.
Oui, et qui montre aussi, comme vous disiez, la dépendance et la maîtrise, au final, qu'a la technique sur les vies individuelles. Alors, justement, pour en venir à la question de la propagande, parce que la propagande, là, pour le coup, n'est pas pensée de façon autonome par rapport à la technique. Il le dit, c'est un effet de la société technicienne.
Oui, tout à fait.
Alors, vous l'avez évoqué tout à l'heure en présentant de façon synthétique le livre. D'abord, se souvenir que la propagande est un vrai enjeu de réflexion de sociologie politique, parce qu'on n'a pas évoqué, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué aussi de penser à quel domaine, si on doit rattacher à des catégories universitaires, à quel domaine, de quel domaine relève Ellul. Est-ce que c'est de la sociologie, est-ce que c'est de la philosophie, est-ce que c'est de la sociologie politique? Lui-même était, comme on le sait, enseignant en droit, et plus précisément même en droit romain. Et dans le cas de la propagande, il essaye de penser que il y a une propagande visible à laquelle tout le monde pense spontanément, les régimes totalitaires, etc. Et en fait, il y a peut-être une métaphore qui permet de faire comprendre ça. Lui dit finalement, ce qui est intéressant, c'est pas de voir ce qui se passe du côté d'Orwell, mais ce qui se passe du côté d'Huxley. C'est-à-dire que finalement, c'est pas le plus apparent qui est le plus dangereux, mais il y a une autre forme de propagande et c'est celle-là qu'il essaye d'interroger.
Oui, je crois que c'est vraiment 1984, c'est cette idée d'intériorisation, de conformisation. Ce qui va choquer, ce qui va déplaire, hein, mais j'insiste, ce livre Propagande est vraiment un livre important dans son œuvre, qu'on peut pas en faire on peut pas en faire l'économie. Mais ce qui va choquer, c'est que, d'abord, il va montrer, alors que ça reste quand même un peu la pierre de touche, entre la distinction entre information et propagande, pour lui, elle est extrêmement ténue. D'abord parce que les canaux de diffusion, les vecteurs, sont les mêmes. Bon, ça, c'est déjà un point extrêmement important. On peut pas... la frontière est poreuse entre les deux. C'est très difficile de déterminer à partir de quel moment, par exemple, un gouvernement va faire de l'information ou un gouvernement va faire de la propagande. Et puis ensuite, dans les régimes démocratiques, parce que précisément c'est là où il veut en venir, la propagande totalitaire, elle est connue, elle est étudiée. Bon, très bien. Il y avait le livre de Tchakotine, auquel il fait souvent référence, là, le viol des foules par la propagande. Bon, très bien. Donc cette propagande visible, etc., lui, il n'est pas persuadé qu'elle soit aussi pertinente que cela. En tout cas, Lui, il attire l'attention sur la propagande, justement, dans nos régimes. Et celle-là, c'est celle qu'on ne voit pas. C'est celle qui se diffuse à l'école, qui se diffuse à l'histoire, qu'est-ce que l'histoire soit officielle, officieuse. C'est celle qui se diffuse dans les familles, c'est celle qui se diffuse dans les associations, les églises, les partis, et les films. Dans le cinéma, il a là-dessus, il insiste, et dans les films qui sont d'ailleurs justement en dehors des films de propagande politique, des films qui sont étudiés et qui sont réalisés en période de guerre, qui vont... Alors, en effet, il distingue bien. Alors là, en particulier, là, il a deux exemples, la Chine et les États-Unis, mais il travaille beaucoup sur les États-Unis. Et il présente ce qu'est justement cette propagande qui est insidieuse, qui est donc justement pas visible, qui correspond à ce qu'on a appelé, après en sciences politiques, le Sean Pai parlait de soft power. Et ça, en effet, le cinéma américain, là aussi, pour le meilleur et pour le pire, a été un vecteur de propagande absolument extraordinaire. Et ce qui n'a pas plu, là, pour le coup, à ses contemporains, c'est que la doxa, c'était de se dire, mais finalement, il faut être, je ne l'ai pas dit comme ça, mais il faut être un abruti pour être propagandé. Bah, lui, il s'appuie sur différentes enquêtes, il montre qu'au contraire, précisément, si on est... non intégré à la société, si on est coupé des moyens d'information, qui plus est si on est un analphabète, ben on peut très bien rester en dehors de la propagande. C'est une des possibilités. Et il montre que, à l'inverse, des individus, on dirait, non pas informés, mais surinformés, et au premier chef, les intellectuels. Et les intellectuels peuvent se retrouver les premiers exposés à la propagande. Et comme là, pour le coup, ça correspond bien à sa propre génération, à ce qu'il a eu à voir sous les yeux, c'est-à-dire quelques générations d'intellectuels girouettes qui ont épousé successivement toutes les causes. C'est-à-dire, avec quelques générations près, partie justement de... des voyages en Union soviétique. On va commencer là et épargner d'autres fantaisies qui touchaient peut-être plus les écrivains de l'entre-deux-guerres et pendant. Mais déjà, après, Cuba. Et là, il y aurait aussi une liste non négligeable. Et puis la Chine de Mao avec... Des voyages avec des intellectuels respectés, fort respectables de leur temps, qui se sont laissés abuser par la propagande de la Chine maoïste dans des proportions, et qui s'en sont fait d'ailleurs les propagandistes.
Oui, c'est ce qu'il vous dit, c'est aussi ce qui a déplu un peu dans ce livre, c'est qu'il rappelle que l'efficace de la propagande suppose une complicité du propagandé.
Oui, alors ça c'est tout à fait important, parce que justement, il y a un besoin de recherche de vérité. Et c'est le lien est là, c'est-à-dire que le propagandé, il a besoin en effet là, d'une vérité. Il est chercheur de vérité et il cherche à se conformer à ça. Donc en effet, il sera vraiment lecteur. Et il y a ce phénomène, donc avant la lettre, de bulle de filtre, puisque maintenant on appelle bulle de filtre ces phénomènes sur les réseaux sociaux où on ne va recevoir que la propagande de nos amis, alors si c'est Facebook, nos amis, ou que notre propre réseau, et ça va nous en foutre, même des médias que nous avons choisis. Ce phénomène, il existe déjà, c'est-à-dire que, et lui le dirait, il faudrait presque il n'emploie pas ces mots parce que c'est pas son vocabulaire, mais il faudrait surtout combien d'heures par jour pour que un individu moderne plongé dans le kaléidoscope des nouvelles puisse se dire, moi je vais lire un journal de gauche, d'extrême gauche, d'extrême droite, du centre, de la droite, et combien d'heures par jour à l'époque où il fallait 4h30 pour lire le monde en intégralité. Bon, donc il dit finalement c'est plus confortable. En effet, là, il y a une complicité entre le propagandiste et le propagandé. En effet, et les intellectuels qui sont justement les premiers visés.
Avec un point aussi que vous soulignez qui fait écho aujourd'hui, qui est là, on retrouve la dimension dialectique d'Ellul, qui est que la propagande, elle dépend aussi d'un certain état de la société. Et cet état, c'est celui d'une société à la fois massive et individualiste.
Oui.
Et qu'il faut précisément avoir cette configuration-là pour que la propagande agisse.
Oui, oui. Il faut que l'individu, justement, soit... C'est l'individu plongé dans la foule. Et puis, il y a quelque chose qui était pertinent, justement, dans son analyse de la propagande, qui le reste, me semble-t-il... avec justement la post-vérité, aussi les théories du complot, c'est que vraiment ce côté, je ne dis pas catastrophique, mais catastrophiste de l'information. C'est là que nous sommes littéralement, je dis nous parce que, et moi le premier, hein, je ne m'exclus pas parce que j'ai tendance à écouter, je suis débarrassé de la télévision depuis une bonne vingtaine d'années, mais. J'ai compensé fortement par la radio. Et par définition, selon le cliché, on ne fait pas d'infos avec des trains qui arrivent à l'heure. Donc on s'expose, c'est-à-dire qu'on s'expose, volontairement ou non, à de la propagande. Mais on s'expose à des mauvaises nouvelles. Et on s'expose... Alors on est à la recherche, d'abord. Et l'intérêt, si on peut dire, de la propagande, et c'est vrai aussi des théories conspirationnistes ou des fake news, c'est que ça simplifie. Et ça remplit une fonction lénifiante. Ça désigne un bouc émissaire ou des boucs émissaires, généralement ceux que nous avons choisis nous-mêmes, puisque par définition, on s'expose à tel ou tel type de propagande qui va conforter nos propres préjugés. Donc mais c'est le même mécanisme qui est décrit. Donc de ce point de vue-là, l'idée que par une opération là, du Saint-Esprit, on pourrait s'en... Non, on peut tenter d'eux, mais de dire « Ah non, mais moi, la propagande, ça marche pas », non. Et ces débats sont encore plus... dans les sociétés polarisées maintenant comme les nôtres, y a des sujets sur lesquels il ne peut plus y avoir de discussion possible, malheureusement, on l'a vu avec... Alors, chacun étant le dupe de l'autre, c'est-à-dire que pour un anti-vax, pour un souverainiste. Bon. Chaque fois, on est l'intoxiqué de l'autre. Donc les deux... Qui détient la vérité ? Puisqu'on va incriminer les médias mainstream, qui dit la vérité là-dessus ? Et c'est là-dessus que s'engouffre... Mais ça correspond bien à une angoisse, à une recherche de vérité dans les deux cas.
Oui, et c'est ce que vous dites, et c'est ce qui nous mène vers l'espérance oubliée aussi. C'est-à-dire que d'un côté, c'est, quand vous dites les gens s'accrochent aux fake news ou au conspirationnisme parce que ça simplifie, c'est aussi une résistance face à une certaine forme d'absurdité et d'illisibilité du monde, et qu'en fait, c'est quand même compliqué de supporter l'idée que les choses n'aient pas de sens. Donc on préfère leur donner un sens, même s'il est complètement erroné. Et l'autre versant, et peut-être là, vous y viendrez, mais c'est la question de l'espérance face à l'espoir. Vous avez évoqué le reproche qui était fait à Ellul de son pessimisme permanent. En revanche, il y a quelque chose qui est aussi permanent, c'est l'idée de l'ouverture. C'est-à-dire que de même qu'il faut sortir des systèmes, il faut sortir des bulles de propagande, et il faut sortir de cette idée, et donc ça rejoint ce que vous disiez à l'instant, dans une société clivée, justement, on s'empêche de sortir de ses propres idées, et on considère que l'autre, non seulement a tort, mais c'est même pas la peine de discuter avec lui.
Oui, là c'est quelque chose qui est constant. Et là, je repense à un entretien, et je crois que c'était cette phrase que j'ai utilisée maintes et maintes fois, parce qu'elle clôturait un entretien qui avait été publié à l'époque dans Le Monde, si je ne dis pas de bêtises. C'est « Je décris », c'est Ellul qui parle, hein, « Je décris un monde sans issue avec la conviction que Dieu accompagne l'homme à chaque instant. Enfin, » je crois que c'est l'idée. Bon. Et en effet, son livre L'espérance oubliée, alors, il dit deux choses. Alors, il est en 72, ce qui veut dire que je trouve qu'il est... pour le coup, il est... C'est peut-être pas le moment où, où il souligne suffisamment le Dieu amour. Parce qu'il en est à 72, 68 est passé par là. Et il considère que donc certains chrétiens se sont aussi égarés sur le chemin de l'éros, mais que l'amour, on l'a mis à toutes les sauces. Et que, bon, ça... C'est le divin théâtre. Il y a toute une... Sans qu'il soit, une fois encore, bon, ça serait mal le comprendre d'en faire un père la pudeur, ou il n'est pas, ou un moraliste. Mais il trouve que, bon, bref. Alors, là, pour lui, le point nodal dans l'espérance oubliée, justement, c'est l'espérance. Et elle intervient, 72... Il considère que là est venu le temps de la déréliction, c'est-à-dire le temps où Dieu se tait. C'est-à-dire que l'homme, ça ne veut pas dire que parce qu'il se tait, qu'il l'a abandonné. Mais ça veut dire que, il est seul, il ne l'entend pas. Dieu ne s'adresse pas à lui. Bon. Donc c'est quand même un moment particulier. Malgré tout, justement, il invite le lecteur à distinguer l'espoir et l'espérance. Donc sa foi, elle a été constante dans toute son œuvre. Et il dit, bon, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Bon, toutes ces formules, justement, sont des formules qui sont non seulement trompeuses, mais qui nous éloignent, quoi, justement, de ce qui est là. Et c'est précisément dans les moments où, pour lui, où... finalement, toutes les issues semblent bouchées, que vraiment la situation paraît la pire, hein, que se rappelle justement l'espérance. Et c'est sa certitude qu'il ne peut pas démontrer de façon, en effet, mathématique. C'est la foi qui l'accompagne, même s'il a publié un livre qui s'appelait « La foi au prix du doute ». C'est sa conviction la plus profonde. Elle est là de bout en bout. Et elle est là aussi dans ce mouvement dialectique où à chaque fois, il va montrer... Donc, il est toujours avec ses formules en disant que... En reprenant Kierkegaard, j'avance ici avec crainte et tremblement. Donc, il est vraiment sur un chemin de crête. Il le sait, quoi. Bon... Il a même le sentiment, il l'écrit, que ce qu'il raconte peut sembler naïf, qu'il a soumis son propos, son histoire, même sa critique de l'amour telle qu'elle est comprise justement à cette époque, à l'examen sociologique et politique qu'il a pu faire durant toute sa vie. Et malgré tout, il dit que ça tient et que... on est vraiment, un, dans un temps de déréliction, et deux, que plus que jamais, l'espérance reste au cœur des choses. Donc, il le dit mieux que moi, mais il l'articule ainsi. C'est double conviction.
Cette articulation, elle est importante, parce qu'elle nous mène vers le dernier moment, qui est l'autre terme du sous-titre du volume, qui est la question de la liberté.
Oui.
Parce que là, tout ce qu'on a exposé jusqu'ici ne nous mène pas vers la joie de vivre et l'enthousiasme.
Absolument.
Mais ce qui est important, parce que dans la série, ce qui est au cœur de sa pensée, c'est l'idée que malgré tous les cadres d'oppression, la liberté est là et que justement, on ne peut pas y renoncer. Et que ça, c'est parfaitement adossé. C'est pour ça que je pense que c'est important de finir là-dessus. C'est justement le trait commun entre anarchisme et christianisme, c'est ce rapport à la liberté. Et même si c'est... Et ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment un rapport dialectique. C'est-à-dire que la liberté, c'est pas se promener le matin et se dire « je vais faire ce que je veux ». C'est un certain rapport au monde, au réel, et c'est ce à quoi il tient.
Mais j'aurais même dû commencer par ça, plutôt que de finir. Parce que pourquoi il s'intéresse à la technique et pourquoi il s'intéresse à la propagande? Précisément, c'est pour les mêmes raisons. Parce que justement, aussi bien la technique dans le sens où il ne s'agit pas de s'en prendre à la technique, mais à la sacralisation de la technique, c'est-à-dire au technicisme, c'est-à-dire à cette idéologie de la techniciste, s'en prendre à la propagande, dans les deux cas, c'est s'en prendre à la liberté de l'homme. Et Ellul est parfaitement explicite là-dessus. Il dit que on ne peut rien comprendre à ce qu'il a fait, vécu, pensé durant toute sa vie si on ne le rapporte à la vérité. Et la vérité, elle, elle est constante partout. Ce qui fait que même, justement, et à commencer par la Bible, qui aurait pu être, sur le versant politique, on va y venir, et justement les deux vont être reliés tout à l'heure, mais à commencer par la Bible, il voit dans la Bible, non pas une espèce de catéchisme ou de livre de recettes, il voit la Bible comme un livre de questions que Dieu pose à l'homme. Et sa lecture de la Bible fait que elle est articulée de telle façon qu'elle permet à la fois la liberté de l'homme dans la libre détermination de Dieu. Et ça veut dire que là encore, il ne faut pas que ça soit une évidence. Moi, il n'y a pas si longtemps que ça, à Bordeaux, là, dans une sorte de... Oui, de réunion justement nationale, j'ai entendu une question en disant, mais est-ce qu'il n'y avait pas un moyen, où il y avait des scientifiques, donc on pouvait établir une preuve scientifique de l'existence de Dieu. Ben, c'en est fini de la liberté de l'homme. Si Dieu, vous le croisez au Capucin, ben, qu'est-ce que c'est que croire ? Croire, c'est faire un pari, ça n'a pas de sens. Hein. Si on croise Dieu place du marché, elle est où la liberté de l'homme ? Bon. Donc la liberté, elle est centrale. Et là aussi, pourquoi anarchie-christianisme ? Parce que là aussi, tout bien pesé, et puis ça reste une constante. Ça reste une constante quand même que j'ai pu là, justement reconstituer alors, dans sa prime jeunesse hein, jusqu'à l'ouvrage de maturité anarchie-christianisme. Alors il faudrait définir son... Il considère que, justement, l'anarchie est finalement la voie la plus compatible avec la Bible, de la même façon que le socialisme libertaire est la forme la plus sérieuse de socialisme. Les deux permettent de combiner ce qu'on pourrait appeler un socialisme de la liberté. Étant entendu que pour lui, les hommes étant ce qu'ils sont, eh bien, une société anarchiste n'est pas de ce monde. Et c'est ce qui le sépare, justement, des groupes anarchistes, je dirais, traditionnels. Il en est proche, mais il les a fréquentés, il a eu des compagnons, il n'a pas cette... Je crois qu'il fait preuve comme il fait preuve... dans toutes ces analyses, je dirais non pas d'un pessimisme, mais d'un réalisme hein, sur ce qu'est l'homme. C'est-à-dire que, et là-dessus, moi, je le rejoins sans difficulté. Je trouve même, ça c'est un autre débat, mais moi je trouve que se dire aujourd'hui aussi bien chrétien qu'anarchiste, de ce point de vue-là, moi je serais plus proche de Charbonneau, en disant que Jésus a placé la barre trop haut. C'est vraiment difficile de dire, moi, je suis... Et même, on pourrait dire aussi, Kropotkin, Élisée Reclus, surtout, et bien d'autres, il faut un niveau de bonté absolument extraordinaire. Mais non pas pour être chrétien, mais déjà pour être aussi anarchiste. Alors, pour être et anarchiste et chrétien... C'est pas oui, c'est à tout le monde.
C'est pour ça qu'on est plus de l'ordre de l'aspiration,
c'est ça,
à être que de la réalisation du oui. fait de l'être.
Oui, 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 oui.
On espère, c'est un idéal.
C'est ça, c'est un idéal.
Vers quoi
mais,
on tend.
Mais oui, c'est comme ça que je crois que il le pose. Hein, c'est que et c'est ce qui et là où il est en effet très très convaincant dans sa démonstration parce que bien évidemment il reprend. Tout l'argumentaire, notamment l'argumentaire de Bakounine, hein, donc c'est ou bien, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir si Dieu est. Alors je cite de mémoire, ça fait longtemps que je ne l'ai pas repris, mais c'était un classique. Alors, bon, je ne sais pas, si Dieu est tout puissant, eh bien, il peut empêcher le mal sur le monde, donc il peut empêcher tous les malheurs du monde. S'il ne le fait pas, c'est qu'il n'est pas Dieu, hein, c'est pas un Dieu d'amour. Et dans le cas contraire, il n'est pas Dieu, quoi. Enfin, bon, et, ou alors il est mauvais.
Soit il est mauvais, soit il est impuissant.
C'est ça, c'est ça. Soit il est mauvais, je dis plus simplement, c'est ça. L'idée, c'est ça. Tout à fait. C'est exactement ça. Bon. Et il reprend, il démonte cet argumentaire. Hein, c'est effectivement le dilemme des incroyants. Bon. Il le démonte de façon extrêmement convaincante. Alors, en effet, hein, après, il ne va pas raconter que pour de toute éternité. Non, il montre que le christianisme pouvait être le plus compatible. Il dit en effet que à partir de Constantin, c'en est fini de ces aspirations libertaires qu'on retrouve aussi d'ailleurs dans la méditation sur l'Ecclésiaste. Toute cette tonalité justement contre les rois, contre l'autorité, contre même la démarche de Jésus. Bon, tout ça se termine, en effet, avec Constantin, ou avec justement cette transformation d'une foi. Bah, comment cette petite religion minoritaire va devenir une religion d'État, et comment elle-même, elle va après se transformer en des choses qui restent très éloignées. Là, c'est comment transformer ce qu'il va appeler plus tard la subversion du christianisme.
Hein. Mais ça c'est ce que vous dites, et on va en finir par là, c'est que il y a chez Ellul cette constance aussi de la non-considération des institutions. Il faut se méfier des institutions, quelles qu'elles soient, parce que les institutions, c'est là aussi l'idée de substituer le moyen à la fin. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas devenir écologiste en ayant un parti, vous ne pouvez pas être un croyant si vous considérez que ce qui importe, c'est l'institution en tant que structure de pouvoir, et son anarchisme, il est évidemment là aussi, et ça, c'est, comme vous l'êtes très bien présent dès les années 30, il dit la grande mue, pour reprendre l'expression de Charbonneau, c'est quand même l'association d'un État très puissant avec le développement technique.
Oui, totalement. Il a, à l'égard des institutions, y compris d'ailleurs sa propre Église, quand même, pour le moins une méfiance. Quant au parti, là, c'est explicite. C'est toujours, il a toujours considéré, qui plus est pour l'écologie, mais bon, il a toujours considéré que l'écologie allait se fourvoyer à se transformer en parti politique. Là aussi, je me souviens parfaitement d'un entretien avec lui, hein. On m'avait envoyé, là c'était pour le Nouvel Obs à l'époque, et je m'étais fait l'avocat du diable en lui posant des questions, bon, qui finalement je jouais dans ces questions, mais et je me rappelle bien de ses réponses, c'était de dire mais non, de toute façon, l'écologie, si elle entre sur la scène politique, elle se divisera. Ben, je lui dis oui, mais bon, je lui dis oui, mais. Il dit, si, il me dit, elle se divisera, mais en de multiples parties. Bon. Donc, j'insiste. Il me dit, oui, il y aura une écologie de droite, de gauche, du centre. Je lui dis, ah bon. Et je lui dis, et puis il me dit, je lui dis, donc, d'extrême gauche et d'extrême droite. Il me dit, oui, bien sûr. Et en effet, ça s'est manifesté. Alors, pour le... Oui, puisque de toute façon, avec plus ou moins de succès, mais c'est en effet ce qui s'est produit. Donc, il disait non. Et au passage, dans ce cas-là, ça voulait dire que l'écologie devenait... elle perdait, en entrant sur la scène politique, je dirais, toute sa vitalité, puisque pour lui, le combat, il était... Les combats, les causes, elles étaient amenées sur le terrain, dans le cadre associatif, dans le cadre des comités de défense. D'ailleurs, c'est ce qu'il a pu faire avec le comité de défense de la côte aquitaine, hein, donc avec un travail de terrain. Puis une fois que la cause est gagnée ou perdue, eh bien, hop, c'est comme en sciences politiques, on appelle des comités ad hoc. Hein, et c'est pas permanent, parce que justement, permanent, de la même façon que sur le plan de l'anarchisme, il était favorable à ce mouvement qui a été court, parce qu'il a été... ses militants ont été décimés aussi par la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire tout ce mouvement qu'on pouvait trouver aussi né autour des bourses du travail, où il n'y a pas de permanent, justement. Hein. Et à partir du... Il y a une méfiance fondamentale à l'égard du pouvoir, l'exercice du pouvoir chez lui. C'est pas pour rien qu'il est libertaire. À partir du moment où... Et qui plus est dans une institution, elle va exercer du pouvoir, elle va sécréter une bureaucratie, Et donc là, ça veut dire qu'il faut déjà prendre des distances. Et en revanche, il ne prône pas ni l'acte solitaire. Et au contraire, c'est pas ni le retrait, pas du tout. Il est impliqué dans tous les combats de son temps. Hein. Il ne nous incite pas à désespérer. Il nous incite à agir. Mais pour le coup, pour répondre à votre question, en dehors des institutions, et il pense que ce n'est pas d'ailleurs parce que alors justement, moi j'avais donné des résultats bons aussi, des résultats électoraux aussi bien en Allemagne qu'en France. Il m'a dit oui, mais bien sûr, mais d'abord et pourquoi et pour donc il y voyait justement à la fois une caution et puis il me disait oui, c'est là pour cette élection là, mais la prochaine, la prochaine justement, ça a été dégonflé d'ailleurs et puis après. Et puis dans des systèmes, pensons au score pour les présidentielles, par exemple. Mais non, le coma, il n'est pas là pour lui. Mais c'est pas étonnant, je pense, pour lui. Donc la méfiance à l'égard de l'institution, elle est centrale, en effet. C'est pas par là qu'on obtient la liberté, pour revenir à la question qui est centrale pour lui. Hein. En effet, vous avez bien fait de le rappeler. Toute sa pensée s'exprime et justement sa réflexion sur la technique, sur l'emprise de ce système technicien, sa réflexion sur la propagande. Bon. Ce que nous dit anarchie et christianisme, c'est justement aussi, c'est une façon de nous affranchir justement de ces différentes formes d'aliénation, y compris une aliénation partisane où on devient un homme de parti, c'est la partie d'un homme, pour reprendre une formule libertaire.
Patrick Sastenet, merci beaucoup de nous rappeler cette aspiration à la liberté que procure la lecture de Jacques Ellul.
Merci.